Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Il y en a marre de cette vie. Il regrette le temps où il était étudiant, même s'il allait très peu à l'université, mais le fait de se dire étudiant, ça le montait socialement. Là, la vie du voyer lui pèse. Toujours la même chose, pas de sujet de conversation. On parle toujours pareil. Et puis le salaire, ce n'est presque rien. Il aimerait bien trouver, c'est quelque chose qui gagnerait plus. Avoir un vrai salaire.
Oh oui, elles sont extra.
Un jour, il lit dans un journal gratuit une petite annonce qu'une usine de tissus cherche un employé sans qualification. Il décide d'aller voir. La petite entreprise se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse. Une entreprise grossiste de tissus de soie. Il y a des difficultés à trouver. C'est enfin dans une petite rue. L'entreprise de soierie Roussillon Frères. Le bureau se trouve dans un pas de porte d'un vieil immeuble sans style, mais tout de même propre. Pour se présenter au bureau. Celui qui le reçoit, c'est Monsieur Roussillon, qui est un homme dans les 50 ans, de taille moyenne, fort, cheveux teint un peu grisonnant. Son bureau est propre mais petit, moderne, il dit à Guillaume. C'est un travail du manutentionnaire. Ça, il faut décharger les rouleaux de tissu et les mettre par catégorie. Je ne sais pas si ça peut vous convenir. Vous avez étudié en lettres, Guillaume dit. J'ai besoin de travailler et le salaire me convient. Bien. Vous serez à l'essai une semaine. Après, contrat de 3 mois. Puis de 6. Et ensuite, définitivement embauché. Ça vous va? Oui, monsieur. Merci. Je vais vous montrer la cage où vous allez travailler. Ils sortent du bureau. Et un peu plus loin dans la rue, là se trouve, à bord d'un immeuble, l'entreprise de la soierie. Son poste de travail. Il présente ses camarades de travail et le contremaître. Il nous a incité de faire ce travail à cause du salaire, qui est le double de celui de la marchande de poissons. Le lendemain, il annonce son départ et lui dit « Je vais te regretter, c'est dommage, mais si tu veux réussir, enfin, si tu veux revenir, tu peux, hein ?» Elle l'embrasse. Odeur de poisson. Enfin, c'est la dernière fois qu'il va la sentir. Et le lendemain, il va travailler, mais se lèvera, beaucoup plus tôt, ou beaucoup plus tard, je veux dire. C'est déjà une bonne chose.
Moi, c'est pas normal, ça fasse mal. C'est la boîte qui tourne, qui travaille.
Le travail est pénible. Les rouleaux de tissu à prendre, soulever et déposer en hauteur sont assez lourds et encombrants. Il faut entre 25 et 30 kg, 1,50 m de longueur. Toute la journée, il faut charger et décharger les rouleaux. C'est épuisant. Mais Guillaume se dit qu'il doit tenir le coup. Après une semaine, il en a marre de travailler, de ce travail de con. Il se demande comment des gens peuvent faire ça toute leur vie. Ce doit être des débiles, ces gens, ou pour faire ça comme ça, ou des mutants, des robots, mais en tout cas des cons. Et en plus, ce travail de con, il faut se farcir les bavardages débiles de ces cons. Et là, pendant 8 heures, avec une petite pause, bien entendu, et à entendre leurs conneries, c'est aussi fatigant que de soulever cette merde de rouleau. Des fois, il a envie de leur crier. Il n'avait pas fini de dire des conneries, espèce de veau. Arrêtez de m'énerver, de m'emmerder avec vos merdes. Ça parle toujours de la même chose, ces ploucs. Les vacances, la télé, le foot, les vacances, les filles. Enfin, ce que c'est qu'une fille, eux. Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Il se dit qu'Arlette a beau dire, les pauvres ne sont pas faits comme les autres. Ce qu'ils aiment, ce n'est pas la même chose. Et même leur bouffe n'est pas pareil. Pour le casse-croûte, comme ils disent, ils mangent le matin de la charcuterie. Rien que de les voir se goinfrer de charcuterie en cellophane rempli d'eau, ça le dégoûte et lui donne envie de vomir. Il est dégénéré. Il a envie de gerber. En plus, cette merde en bouteille plastique qu'ils appellent Narnia et qui boivent, c'est infect. D'ailleurs, tout est dégueulasse chez eux. Le peuple, c'est beau. Encore dans les livres. Et ceux qui ont créé les livres n'ont jamais vu, n'ont jamais vécu avec eux la preuve. N'aurait jamais pu écrire sur eux s'ils avaient vécu avec eux. C'est trop dégueulasse. Et puis ça rote, ça pète. Et lorsque ça va pisser et roter, il faut qu'ils le disent à tout le monde. C'est des bêtes sorties des cavernes. Guillaume n'en peut plus. Il en a assez de cette vie. Il a envie d'être tué. Des heures et des heures. À porter cette merde. Et en plus à entendre ces cons. Il aimerait s'y hurler. C'est l'enfer de Dante. C'est les camps de la mort. Et eux, ils avaient des soldats à garder, qui étaient moins cons que ceux-là, et dire qu'ils sont abrutis dès leur jeunesse, ces connards. Ils ont l'air aussi idiots que les vieux. Ils sont tous heureux de leurs conditions. Ils ne cherchent même pas à avoir mieux. La société a rendu le pauvre tellement abruti qu'il ne cherche même plus à protester ou à changer de condition. La peur du chômage les a rendus encore plus esclaves que les esclaves des Romains, qui au moins pouvaient avoir l'espoir de devenir des hommes libres, tandis que rien, rien. Des bêtes, rien de plus. Et non, les bêtes encore plus bêtes que les bêtes. Et dire qu'ils pensent dans leur tête d'abruti que lui, Guillaume, est heureux de vivre cette vie-là. Il se dit qu'il ne peut même pas leur expliquer que leur vie est une vie de fou. Ils ne comprendraient pas. Ils le traiteraient de fou. Hein? Il rit, il chante. En faisant ce travail de débile, ils sont contents. Ils ont assez pour se payer un tiercé. Ils sont bien dans leur merde. Guillaume se sent seul au milieu de ces gens. Ils sont gentils avec lui, cherchent à lui parler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que dise Guillaume avec ses conversations? Il n'y a rien. Il a beau essayer, c'est de leur parler de choses. De choses culturelles qui remontent un petit peu la conversation, comme de la lutte des canuts, du livre de M. Muron, mais non, ils ne lisent pas. La musique, à part les titres à danser, rien. Il essaie de parler de culture autre. Mais ça ne sert à rien. Ils s'en foutent. Ce qui compte, avoir de l'argent pour une moto, des filles et les vacances. Il achète toujours un peu de drogue. Il va voir la fée noire, c'est-à-dire Arlette. Lorsqu'elle est de bonne humeur, ils font l'amour. Il essaye de lui expliquer ce que c'est que le peuple, vraiment ce que c'est que le peuple et ce qu'il pense, ce qu'il aime. Il lui dit la bêtise des gens, ce qu'ils pensent des choses. Et ce qu'ils aiment. Il lui dit, le peuple, c'est pas ce que tu crois. Et il lui dit, arrête tes idioties. Tu vois le peuple comme un bourgeois dégénéré. Moi, je pense, je vois le peuple. Je le veux libre, le libérer de ses chaînes et tout. Même dans la culture, notre culture de facho, le libérer de ça, et lui dit, tu le crois? Moi je crois que la culture, qu'elle soit facho, de gauche ou autre, ils s'en balancent. Ils sont bien comme ils sont, ils ne cherchent pas à changer de vie, à se libérer. Leur vie leur plaît comme ça. Elle lui dit, arrête, fasciste. Il se dit qu'elle ne comprendra jamais le peuple. Elle s'est faite une idée, bien elle, d'après les écrits. Mais la vie, si elle vivait avec eux, elle changerait d'idée sur eux. Thank you. dans l'atelier un petit homme tout maigre, cheveux abondants blancs. Il est habillé d'un vieux costume gris, pas très pop, et d'une chemise qui a été blanche, avec une cravate très large des années 1970. Bonjour, tu cries. Bonjour Pierre-Max. Pierre-Max regarde Guillaume et dit, qui est celui-là? Oh, qu'il est beau. Il va vers Guillaume gêné. Je m'appelle Pierre-Max et je suis le frère du patron. Je suis patron aussi de l'entreprise. Je m'appelle Pierre-Max Roussillon. Et toi, mon Mimi? Guillaume lui dit un peu gêné. Guillaume Laville, qu'est-ce que tu fais là? Je décharge et charge les tissus. Moi, je fais une émission par Radio Métropole, à l'écoute du monde. Une émission où je reçois tous les étrangers du monde entier. Mais la radio est de gauche et moi, je suis de droite. Alors bien sûr, ces salauds, ils m'empêchent de parler. Mais moi, je parlerai tout de même. Il prend les mains de Guillaume et les caresse, puis tamponne sa tête sur sa poitrine, lui dit « Il faudra venir me voir, Mimi, 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 moi j'aime bien les jeunes, Mimi, Mimi. » Guillaume se sent gêné et ne sait comment faire pour se débarrasser de l'emprise de Pierre-Max. Les autres qu'ils connaissent rient. Puis, au bout d'un moment, Pierre-Max le lâche pour partir. Il dit à Guillaume, « Viens me voir !» Guillaume demande, « Qui est cet hurluberlu ?» On lui dit que c'est le frère du patron, qu'il est un peu bizarre, mais pas méchant. Souvent, Pierre-Max vient à l'atelier dans l'après-midi. Il passe 3 heures à trier des lettres au bureau. Puis il va parler un moment à Guillaume. Guillaume se met à bien aimer ce petit vieux et se dit qu'il est mieux que ces ploucs qu'il a comme collègue de travail. Ses parents n'ont toujours pas de nouvelles. Ils se font du souci. Son père ne le montre pas. Parce que sa femme est déjà suffisamment en peine. Elle lui demande. Que faisons-nous?
Rien. Il n'y a rien à faire. Il est majeur. Il peut aller vivre où il veut.
Elle lui dit, mais il est malade.
Il lui dit, aux yeux de la société, il est sain d'esprit. Jusqu'à présent, il n'est pas sous tutelle. Et puis, ne te fais pas de soucis, il reviendra bien de lui-même. Ici, il y a le gîte et le couvert.
Guillaume continue sa vie comme ça. Il vit toujours dans cet hôtel pourri, plus respecté par la concierge depuis qu'elle l'a vu qui faisait les marchés. Parce que pour elle, un garçon de bonne famille, comme elle le croyait, ne fait pas le marché. Ça, c'est jamais vu. La preuve d'en voici, on ne dit jamais qu'un garçon de bonne famille fait les marchés. Alors, elle lui fait la gueule, cette vieille folle. Parce que déçu par lui. Et ça, ça ne se pardonne pas. Elle dit à toutes ses copines du coin qu'elle l'a vu. Il fait le fier. Mais c'est rien du tout. Ça a l'air comme ça. Mais c'est rien. Moi, je sais. Figurez-vous qui vend sur les marchés. Guillaume, il faut qu'il fasse attention à sa paye.
sa chambre doit être payée à temps. Parce qu'il ne le ménagerait pas. Parce qu'elle ne le ménagerait pas, la vieille truie. Elle le ferait partir, vite fait, avec l'aide de la police. D'ailleurs, elle n'attend que ça. Oui, elle attend que ça. Elle attend que ça pour lui faire les dents pour loupette. Alors, il sent ça, Guillaume. Il n'y a qu'à avoir la tronche de la vieille pour le deviner. Dès qu'il a sa paye, il vient la payer, lui donner son mois. Elle a demandé dès le premier versement la carte d'identité à Guillaume. Elle lui a dit, c'est normal, vous savez, il y a tellement de gens malhonnêtes. Elle a bien relevé le nom, l'adresse et le numéro de la carte. Elle sait qu'il habite Charbonnière. Elle se dit, sûrement l'adresse de ses parents, qui doit peut-être concierge ou domestique quelconque chez quelqu'un. Elle veut absolument pas que Guillaume soit de bonne famille, soit de bonnes origines. Non, cela lui prouverait qu'elle est tort. Et là, devant ses copines, non. Elle a tellement dénigré le jeune homme qu'elle ne peut faire un retour à 90 degrés. On la croirait plus. Et son flair n'aurait plus de valeur vis-à-vis des autres. Vrai. Ça, non. Elle ne veut pas. Même si elle apprend que Guillaume est le prince d'Angleterre, elle dirait tant pis. Que ce n'est un bon à rien. Il faut garder sa dignité. Non. Donc, Guillaume lui donne sa paye de suite. Son billet, son loyer de suite. Ce n'est pas qu'il aimerait déménager, mais ne sait où aller. Ensuite, sa grande dépense, c'est le cannabis. Parce qu'il continue à en fumer. À en fumer de plus en plus. Ça lui permet de supporter cette chaîne de vie. Et puis la peur, c'est d'avoir des crises. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas eu. Mais la peur d'être paralysé, de ne pouvoir faire quoi que ce soit, le rend malade. Il va toujours place du pont. Fais bien attention à cause des flics qui traînent là-bas. Heureusement que son pote Ali, qui le voit, va directement à lui, comme ça. Il ne reste pas longtemps dans ce lieu qui est devenu un lieu difficile. Guillaume, un soir, après qu'Ali lui ait donné sa dose et quitté l'allée, tout à coup, il voit devant lui des policiers en civil qui accostent les gens et les fouillent. Il se dit, merde, si on fouille, je suis perdu. Si on voit que j'ai de la drogue sur moi. Alors il s'en retourne en vitesse. Malheureusement, un agent l'a vu. Se retourne, se retire et lui crie, vous là-bas, arrêtez-vous. Guillaume, apeuré, se met à courir dans les rues désertes. Il sent que les autres lui courent après. Arrêtez, police, arrêtez. Guillaume a très peur. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Vite, il voit que le porte est allé. Entre dedans. Mais il entend. Il est rentré là-dedans. Ils se sont perdus. Perdus. Il entend les autres qui montent les étages. Tremblant et essoufflé. Il entend les autres qui sont après lui. Dernier étage, il est perdu. Il ouvre une porte qui donne sur le grenier. Entre. C'est plein de santé. Il me cherche un endroit pour se cacher. Comment faire? Mon Dieu, comment? Voilà la trappe qui donne sur le toit. Il essaye de monter sur le toit en se soulevant par ses deux mains. Fait le geste de le faire. Tout à coup, je sens pas par les jambes. Il ne peut se défendre. Et se trouve face à deux policiers en civil. On maintient bien. On dit police. Il met sur le nez sa carte. Les mains en l'air. L'homme a pleuré, met les mains en l'air. Le policier le fouille. Il trouve le paquet de cannabis. Il dit, tiens, ah, tu as ça? Tu as à nous parler. Guillaume ne dit rien. Il sait que c'est perdu. Il sait qu'il est perdu. Que ses parents vont le savoir. Et même son patron. Il est foutu. Foutu. Il est furieux contre les flics. On pousse, on descend. Et on me dit, j'ai rien fait. Un des policiers dit, bah pourquoi tu t'es enfui? Et tu sais, la détention de drogue, c'est interdit. Allez, j'en ai discuté de ça au poste. Une fois dehors, on le met dans une voiture de police, à l'arrière, entre deux flics. On lui met les menottes. Là, c'est la grande honte, les menottes. Il leur dit, je ne pourrais, je cherche pas à partir. On ne lui dit rien. Et la voiture démarre. Avec la sirène. Il se dit, tout ça pour moi, on le traite comme un criminel, et ses parents, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelle honte, ton grand-père le sera lui aussi. Non, il ne veut pas que sa famille le sache, surtout pas. Enfin, la voiture s'arrête. Tout le monde descend. Et on pousse Guillaume dans le commissariat, qui est un porte-porte d'un vieil immeuble pourri. Commissariat est sale, tout est vieux. À la banque, il y a un agent, un jeune blond. Guillaume est bien tenu des deux côtés par des policiers. Un qu'il tient, celui de droite dit, on vous amène un client, il y a tient des produits illicites, cannabis. Le policier dit, mettez-le dans la cage, on verra plus tard. Le commissaire est pris pour le moment. Pour Guillaume, on le mène à une cage qui est dans un coin du commissariat. Il y a des bancs contre le mur. Une fille blonde, maigre, habillée d'une robe verte, courte. Elle semblait une pute, un vieux clodo, cheveux, barbe blanche, qui lui est allongé sur le banc. Donc pousse Guillaume dans la cage. Il a les larmes aux yeux et se dit, je suis pas un criminel, tout de même. lui dit rien. Il a peur qu'on prévienne sa famille. La fille lui demande, qu'est-ce que t'as fait, toi? Il dit, moi, j'ai rien fait, madame. Je m'appelle Arthur. Et regarde bien cette chose bizarre. On l'a mis dans un zoo. Mon Dieu, que vais-je devenir? Et si l'on croit qu'il vend de la drogue, et s'il a une crise, ils vont croire aussi qu'il a pris de la drogue. Bon, il ne faut pas qu'il en ait, il faut qu'il tienne le coup. Il marche nerveusement dans la cage. On lui a enlevé ses menottes. On lui dit, assieds-toi, ça ne sert à rien de marcher comme ça, mon vieux. Cool. Et on lui dit, bien sûr, toi, pauvre clodo, tu risques rien. Le vieux hausse ses épaules. Le temps passe. Et plus il passe, plus il a peur. Il m'a peur. Il a peur qu'on le mette en tôle. Le vieux lui dit, t'as dû faire quelque chose de rudement grave pour que tu sois si nerveux comme ça. Il me dit, fous-moi la paix, vieux. Oh, arrête de parler comme ça. Tu ne te rends pas compte. Tu te crois pour qui? Ici, on est tous pareils, mon vieux. Faut apprendre ça. L'homme se dit, moi, je suis l'égal de cette merde. Moi, qu'est-ce que je fais ici? On va, qu'est-ce qu'on va me faire? Me foutre en tôle? Ma mère, maman, elle va jamais croire. Elle va penser que je suis un criminel. Parce que pour elle, eux, ceux qui vont en tôle, ne sont que des criminels. Son fils va en tôle. Son père et la vieille salope vont jubiler. Vont dire, nous le savions que c'était de la graine de criminel. Encore, on a de la chance qu'il ne nous ait pas assassinés durant notre sommeil pour nous voler. Je l'avais bien dit, j'ai senti de suite qu'il était un genre de criminel. Et puis, il a des vêtements sales, mal élevés. Mon pauvre Jules, qui est mal secondé, même pas capable d'élever son fils comme il faut. Mais ne te fais pas de soucis, lui il n'est pas de nous. Il ne nous ressemble pas, regarde ses yeux, c'est de chez eux. Sa mère effondrée, qui va peut-être se mettre de leur côté. Oui, ils ont raison. Il s'imagine tout ça, le pauvre Guillaume. Il a peur, très peur. Il a envie de pleurer. Mais ça ne se fait pas. Marche de long en large. On ouvre la cage. Un policier dit à Guillaume, toi, viens ici. On dit, mais moi alors, j'étais avant lui. Le policier lui, toi, la poufiasse, reste tranquille. Vous pourriez être poli tout de même. On pousse dehors Guillaume de la cage. Et on lui fait monter les escaliers. Jusqu'au premier. Ensuite, on le fait rentrer dans une pièce. Pas très grande. Pièce toute grise. Fenêtre avec des barreaux. Petit bureau. Sans âge, où est assis un homme, petit, chauve, maigre dans les 50 ans, costume fripé de confection, Gris. Et cheveux gris. Il dit à Guillaume, assieds-toi. Il s'assoit. Il dit à Guillaume, alors, qu'est-ce que tu as fait? Guillaume lui dit, j'ai rien fait. Il a très peur. Il lui dit, alors pourquoi tu t'es enfui lorsque la police a voulu t'interpeller? Guillaume lui dit, rien. L'autre lui dit, on a trouvé sur toi du cannabis. C'est interdit, tu le sais? C'est pour en vendre? Oui, monsieur, je vous jure que c'est pour moi. Donne-moi tes papiers. Guillaume lui donne. Commissaire Lee, tu habites Charbonnière?
Non, c'est là où habitent mes parents. Moi, j'habite rue Marcelin, hôtel moderne.
Ah, et pourquoi tu habites l'hôtel?
Comme ça, je ne savais pas où aller.
Bien, nous verrons ça. Nous allons jeter un coup d'œil à ta chambre.
Guillaume apparaît et lui dit, surtout pas, monsieur.
Je te regarde bien. Et pourquoi? T'as des choses à cacher?
Non, mais si l'hôtel sait que vous m'avez pris, déjà que la concierge de l'hôtel ne m'aime pas.
Bien, nous verrons. Alors peut-être faire une enquête chez tes vieux.
Non, plus.
Il est terrifié. Que font tes vieux?
Ils travaillent chez Pontoir Diap. Mon père est directeur des ventes et ma mère est à la direction des relations humaines.
Le commissaire lui dit, tes parents ont une bonne situation, et toi? Tu fais le mariole, place du pont, à vendre du cannabis? Pour tes fins de mois?
Non, c'est faux.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Étudiant?
Non. Il a honte. Manutentionnaire chez Roussillon, les grossistes en soie.
Tiens. Manutentionnaire, ta famille n'est pas assez riche pour t'entretenir et pour que tu puisses poursuivre tes études?
Lumpano lui dit, c'est pas ça, c'est moi qui ai arrêté.
Et pourquoi?
Parce que je me suis disputé avec mon père.
Le commissaire lui dit, je vois, ton père s'est aperçu que tu faisais plus rien, à part fumer cette merde. C'est ça?
Il ne dit rien. Le commissaire soupire et dit,
toujours la même chose. En rêve, c'est une bonne affaire, bien poisseuse, et tu tombes toujours sur de la petite merde, de rien du tout. Tu sais ce que je vais faire de toi? Mais des personnes comme toi, dans les commissariats, n'ont pas leur place.
Guillaume se sent mieux, mais le commissaire lui dit,
je vais te foutre en tôle, tu iras voir le juge, qui va te donner au moins 5 ans pour trafic de stupéfiants.
Guillaume a peur, il lui dit, oh non monsieur, je vous en prie, ne faites pas ça, non, ne faites pas ça.
Le commissaire lui dit, et pourquoi veux-tu que je ne fasse pas? Ça t'apprendra à m'ennuyer.
Non, pas lui dit, je ne sais plus.
Je lui dis, on va prévenir ta famille.
Non, je vous en supplie, je vous en supplie. Le
commissaire lui dit, arrête de faire dans tes frocs. J'ai une idée. Tu vas m'aider. Mais donnant, donnant. Je te libère, mais toi, tu me donnes celui qui te donne la canne. Ça va?
Guillaume lui dit, mais c'est impossible, je ne peux pas.
Tant pis pour toi. Tu restes ici à attendre pour aller chez le juge et te mettre en tôle. Une fois à tôle, tu sais ce qui va t'arriver? Hein? Avec ta belle petite gueule, ton petit cul, ils vont tous t'enculer. Ça va être la fête. Ils vont avoir de la chair fraîche. Alors? Guillaume sait que s'il dénonce Ali, il est perdu. L'autre va le savoir, que c'est lui. Sûrement que tout le quartier va savoir qu'il a été arrêté par lui et ce qui est arrivé. Parce que tout le quartier a dû voir qu'il a été pris par la police. Si Ali est pris, ils vont savoir qu'il l'a dénoncé. On risque de le rechercher pour lui faire sa peau. Guillaume a très peur. Depuis tu lui dis, tant pis pour toi, c'est le juge, et je téléphone à tes parents. Le groupe Pontoise Diap n'aime pas que leur collaborateur ait des histoires dans la police, avec la police. Sûrement qu'ils vont mettre à la porte tes parents. Et tu sais, c'est qu'une personne mise à la porte du groupe ne peut plus trouver de travail nulle part. Tu ruines ta famille et tout le monde saura que tu vends de la drogue. Guillaume lui dit, mais c'est faux, je vous le jure. C'est juste pour moi. Ça, c'est toi qui le dis, moi. Je n'ai que les faits. Tu t'es enfui pour éviter le contrôle de la police. J'avais peur, c'est malgré moi. Je me suis enfui malgré moi, je vous jure. Et tu dis, moi, je ne vois que les faits. Et les faits sont ça, alors. Il nous panique, il est pris. Il est pris, il est prisonnier, ce salaud. Il l'a bien coincé. Il est perdu, perdu. Il tremble, tout pleure. Le commissaire lui dit, arrête de pleurer comme un con, de faire dans tes frocs. Tu n'es qu'une fille. Allez, ou tu me donnes le nom de celui qui fait cette merde, qui te passe cette merde, mais qu'est-ce que tu en as? De toute façon, il ne t'est rien, salaud. Tandis que ta famille, pense à elle. Allez, arrête de chialer comme ça, comme un gosse. Tu es un homme, quoi. Guillaume ne dit rien. Il est pris comme un rat. Le salaud, le tien. Tu es fumier, fils de pute. Alors il dit doucement, en tremblant, lui. Et tu dis, quoi, j'ai pas entendu. Guillaume, voyant qu'il faut qu'il dise plus fort, Ali. Ali qui? Je ne sais pas. Je vous le jure. Je te crois. J'ai des photos. Tiens, viens voir. L'autre prend sur son bureau un calepin et l'ouvre. Regarde. Se penche, tremblant. Alors, regarde bien. Il est là. Guillaume regarde. Il se dit qu'il peut dire qu'il n'est pas là. L'autre le regarde bien. Alors, je vois pas. Mais si, il doit être là. On les a tous. Regarde bien. Guillaume reconnaît Ali. Alors, ne fais pas marioule. Tant que tu n'auras pas montré une photo, tu resteras là, à chier dans tes frocs. Et si tu veux, on appelle ta famille pour t'aider. Alors, Guillaume se dit que peut-être il pourrait se montrer n'importe qui. Mais ce serait la même chose pour lui. L'autre lui risque de lui en vouloir, de vouloir sa peau. Alors Ali ou un autre, autant Ali, et puis je n'y suis pour rien si j'étais coincé par la police. Elle est perdue de toute façon. Mais qu'il le soit lui, mais pas sa famille.
Surtout pas eux. Non.
Pauvre Guillaume. Retournez page. Alors, Guillaume perdu, soupire, dit.
Lui.
Qui lui?
Lui, là.
Montre. Il lui fait mettre la main sur la photographie et lui dit.
Il se dit, je suis fait. Les dés sont lancés.
Le commissaire lui demande.
Tu en es sûr?
Oui.
Bon. Vous allez...
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.